Les programmes du studio Kalangu continuent. Il vient d'être 18h, votre journal en français présenté par Ruka et Top Drama. Les titres. Ouf de soulagement pour les transporteurs bloqués pendant des semaines à cause de la rupture du pont reliant Malanville à Gaya. Une déviation vient de redonner le sourire aux usagers des Échos dans un instant. Début de la session budgétaire à l'Assemblée nationale du Niger, vous entendrez les avis de certains parlementaires sur l'allocution d'Ousseyni Tini, président du Parlement. En fin d'édition, un entretien sur l'alternative du solaire au Niger avec le premier directeur de la Nigérienne d'électricité. Monsieur et dames, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Mise en service ce mardi de la déviation du pont Sota de Malanville qui va permettre aux centaines de camions de bouger après plusieurs semaines d'arrêt forcé. Une situation bien accueillie à Gaya qui va souffler car les affaires reprennent. Le président des commerçants de Gaya, El Hadj Saïdou Garba, au micro de Daouda Hassan, se rappelle des jours difficiles.
Nous avons une seule voie. Ce corridor qui quitte le Niger vers le Bénin et celui qui quitte le Bénin vers le Niger. Et c'est au niveau de ce corridor-là qu'un pont a cédé. Vous voyez, cela nous a énormément touchés et ça a touché l'économie de Gaya. Les maïs, là, c'est au Bénin qu'on paye ça. Les sorgho, c'est au Bénin qu'on paye ça. Vous voyez, ces derniers temps-là, les prix ont augmenté considérablement. N'en parlons même pas des autres marchandises qui viennent du Bénin. Et tout ça là, c'est à cause de la rupture du pôle. Les chefs du bureau, les chefs des cantons, les préfets, les gouverneurs ont fait de leur mieux. Ils étaient partis au Nigeria et sont partis également vers le Bénin pour trouver une solution de contournement vers le Nigeria. Aujourd'hui, Dieu merci, la situation est rétablie. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est que les activités se reprennent de plus belle.
Hier, lundi, aux environs de 10h, une partie interne de l'ancien pont de Terra a cédé sur des enfants qui pêchaient. Selon Zakaria ou Adama, le premier parent à s'y rendre sur les lieux, c'est une dalle interne du pont qui s'est écroulée sur des enfants âgés de 10 à 14 ans. Écoutons son témoignage.
J'étais le premier sur les lieux. J'ai trouvé un dans un coin, un autre accroché et le troisième sous la dalle. Ce sont les trois que nous avons dénombrés, parmi lesquels deux sont décédés et un a été amputé du pied. Il est actuellement en train d'être évacué sur Niamey. Ce sont des jeunes de Namandere venus pêcher du poisson. Ils n'ont pas glissé. Ils étaient juste à la rive lorsque le pont a cédé au-dessus de leur tête. C'est le béton du dessous qui s'est décollé de celui d'en haut pour tomber. Je ne sais pas si c'est à la suite du passage d'un véhicule, car je n'ai pas vu de voiture en arrivant. Mais nous sommes arrivés immédiatement après l'accident. Ainsi va la vie. Les enfants n'en font qu'à leur tête. On ne peut que prendre patience.
À noter, deux morts et un blessé au pied droit amputé et hospitalisé à Niamey. Trois gendarmes burkinabés tués, trois employés du secteur minier enlevés, un Indien, un Sud-Africain, un Burkinabé. C'est là le bilan provisoire du rap dimanche, probablement perpétré par des djihadistes près de la mine d'or d'Inata, au nord du Burkina Faso, nous apprend une dépêche de l'AFP. Dimanche, l'Indien et le Sud-Africain ainsi que leur chauffeur ont été enlevés par des hommes armés alors qu'ils voulaient rallier Djibo. Les forces de sécurité ont tenté d'intervenir et un accrochage a eu lieu en fin de journée près de la mine. Trois corps de gendarmes ont été retrouvés lundi matin à Tongomael, localité située à une trentaine de kilomètres d'Inata, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire à Djibo au nord. Les victimes faisaient partie d'une équipe déployée pour le ratissage après l'enlèvement des trois travailleurs de la mine d'or d'Inata. Les responsables militaires des pays membres du G5 Sahel sont en formation à Niamey sur la judiciarisation. L'objectif visé par ECAP Sahel-Niger est d'inciter les forces de défense et de sécurité à traiter l'ennemi une fois capturé dans le respect des droits humains. Pour Frank Van der Muren, chef de la mission ECAP Sahel-Niger, la judiciarisation est la première garantie pour le respect des droits de l'homme. Il explique au micro de Habibou Garba.
D'abord pour traiter les personnes qui sont capturées. Et donc deuxièmement, c'est pour élever des traces et indices sur le scène des crimes. Hein, quand les gens sont arrêtés, quand la zone est sécurisée par les forces armées. Donc là, les enquêteurs peuvent commencer à travailler et donc mener une enquête en bonne et due forme. Ça c'est l'idée, donc pour élever des traces et indices aux auditions des témoins. Et peut-être aussi identifier et traquer les complices des terroristes ou les criminels. Donc ça c'est deuxièmement. Et troisièmement, on pense que la judiciarisation, en fait, le respect de la loi... respect de la loi et respect du droit international humanitaire, c'est la première garantie pour le respect des droits de l'homme. Les forces armées sont dans des zones avec une dense population, donc avec un ennemi qui se trouve et qui se cache parmi cette population.
Le Parlement nigérien est en session budgétaire à Niamey, occasion pour le président du pouvoir législatif Ousseini Tinubu de prononcer une allocution marquant le début des assises. Notre reporter Gungu Mohamed Dantani était sur place où il a recueilli certains avis des parlementaires des deux bords sur la quintessence du discours ainsi prononcé. Voici son reportage.
Dans le discours qu'il a prononcé, le président de l'Assemblée nationale a brossé le travail parlementaire à mi-parcours de cette législature, avant de souligner la détermination du Parlement à donner au système parlementaire nigérien un nouvel élan. Que pense l'opposition du contenu de ce discours? Laoli Ibrahim Meizergui, député de l'opposition au titre du parti Ankuri.
Ce que nous avons entendu n'est pas nouveau pour nous. C'est quelque chose qui ne cadre pas avec les attentes des citoyens. C'est une option qui va au désir des tenants du pouvoir. On doit tenir compte des préoccupations du peuple. L'année passée, pour la même circonstance, nous avons dénoncé cela. Quel est le citoyen nigérien qui n'a pas senti de sa chair l'effet des mesures? Et même cette fois-ci, la problématique est là. L'année passée, nous l'avons dit et la vérité s'est manifestée. Ce que nous, opposition, nous avons dit, est-il vrai ou faux?
Pour le président du groupe parlementaire PNDS Tareya, Saadou Dile, c'est une avancée exceptionnelle que le Parlement nigérien a enregistrée à mi-parcours de cette législature.
Le président de l'Assemblée nationale a parlé de la nécessité pour les Nigériens de faire plus de civisme. Il a, entre autres, rappelé aux Nigériens qu'il n'y a pas d'État sans impôts. Et quand l'État n'existe pas, c'est tout le monde qui en pâtira. Il a fait le bilan à mi-parcours de l'activité de l'Assemblée nationale, des réformes aussi qui sont intervenues, notamment en matière de contrôle de l'action gouvernementale, qui s'étend jusqu'au sur le terrain, ce qui, auparavant, n'existait pas dans l'histoire de notre législature.
Cette deuxième session ordinaire, dite session budgétaire au titre de l'année 2018, durera 60 jours et sera essentiellement marqué par l'examen et le vote de la loi de finances pour la prochaine année.
Dans un communiqué de presse publié hier, le présidium du Front patriotique a exclu de ses membres le mouvement démocratique et révolutionnaire MDR Tarna d'Adel Roubaid. Cette exclusion fait suite à sa nomination comme ministre conseiller du président de la République à la présidence. Direction Agadez, où la région continue d'enregistrer des malades atteints de diarrhée et vomissements. Du 27 août au 23 septembre, 217 cas pour 4 décès ont été recensés. La commune d'Arlit est la plus touchée avec 119. Au centre hospitalier régional d'Agadez, ces malades sont gardés dans un pavillon spécial et reçoivent des traitements adéquats, nous a confié le directeur du CHR d'Agadez, Boubé Moussa.
Dans le passé, on avait beaucoup de cas, mais au fur et à mesure, ces cas-là diminuent. Maintenant, les malades qu'on reçoit, côté pavillon femme, donc on a réservé une salle pour ce cas-là. Donc au niveau du côté homme aussi, on a réservé une autre salle pour ce cas encore. Et on est en train de les traiter comme ça.
Quel genre de traitement vous les faites?
C'est avec la ciprofloxacine, laisse la réhydratation, et aussi on utilise le métronidazole. Donc c'est avec ces produits-là qu'on est en train de les prendre en charge. En tout cas, ça donne de bons résultats. Donc, jusqu'à ce moment, là, on n'a pas enregistré des cas de décès au niveau de l'hôpital. Les décès qu'on reçoit au niveau de l'hôpital, ce sont les cas qui nous viennent et qui décèdent à l'admission.
Propos recueillis par Moussa Maman. Au Niger, sur 2756 candidats à l'examen unique de certification en santé, 1749 candidats sont déclarés admis sur l'ensemble du pays, toutes filières confondues, soit un taux global de réussite de 63,46% contre 87,57% en 2017 et 94,76% en 2016. 107 1700 Autres candidats ont échoué au cours de l'examen. Les résultats ont été proclamés hier à Niamey par le président du comité de l'organisation de ces examens, Dr Abaché Rana. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a proposé hier dans un communiqué de presse sa médiation entre le gouvernement et le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, le SNEX, afin, je cite, d'éviter l'enlisement de la crise, toute chose préjudiciable du système éducatif en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Fin de citation. Selon la CNDH, les deux parties ont accepté la médiation et la commission a demandé la mise en place d'une comité paritaire en vue de la résolution négociée de la crise de l'intérêt bien compris du peuple nigérien. Pour rappel, le SNEX a entamé une grève depuis le 3 septembre dernier suite à l'interruption du processus électoral à l'université d'Ndikodon Clodo de Maradi. Faciliter la création des couloirs de passage pour les animaux entre le Niger et des pays frontaliers, c'est l'objectif d'une rencontre tenue du 17 au 24 septembre à Dapaon, au Togo. Pour le chargé des programmes de l'Association de la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, cette rencontre permettra de baliser la transhumance transfrontalière. Moro Amadou Bello au micro du studio Kalangu. Et puis la partie magazine de cette édition en Afrique, le Niger fait partie des pionniers en termes de perspectives pour l'énergie solaire. Selon le premier directeur général nigérien de la Nigérienne d'électricité, Boukari Kane, depuis les années 80 déjà, Wallam a été choisi comme zone pilote pour l'expérimentation à l'usage et l'usage de l'énergie solaire. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
L'indépendance énergétique reste jusque-là un défi majeur pour plusieurs pays en développement comme le Niger. Plusieurs projets et programmes existent pour favoriser et promouvoir l'usage de l'énergie solaire.
Il y avait des fossiles solaires puisque l'Onersol existait. Vous savez que le professeur Moumouni était le premier à s'intéresser à parler du soleil. Et il a développé même des pompes solaires qui ont permis de faire diriger des petits Bossabangou, par exemple. Il y a une autre technique, évidemment, pour produire du solaire, c'est le photovoltaïque, la production directe d'électricité à partir des panneaux solaires, qui est quand même la production de ces cristaux, évidemment, est une demande de technologie poussée. C'est comme ça que les pays occidentaux ont été les premiers à développer ces choses-là. Mais nous, ici, avec les panneaux, on a fait des chauffe-eau solaires dans le sol, nous avons fait des séchoirs, nous avons fait des distillateurs d'eau, etc., etc. Nous avons fait même des fours solaires et malheureusement, le professeur n'a pas pu poursuivre.
Tous ces projets sont des projets de la Nigelec.
On ne peut pas dire que c'est le projet de la Nigelec, mais nous avons voulu exploiter ce que la puissance de la Nigelec. À l'époque, la coopération française nous a proposé un projet solaire et nous avons choisi Wallam pour faire quelque chose de pilote. Malheureusement, là, on ne s'est pas entendu parce que, déjà à l'époque, nous faire expérimenter le photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux solaires, ce que vous voyez, qui a finalement émergé, c'est vrai. Mais il y a la production thermique à partir de la chaleur, la preuve, on a une pompe solaire. Avant qu'on faisait une pompe solaire photovoltaïque qui se vend, qui s'installe partout. Donc, on pouvait, parce que ça, c'est la production thermique, à propos de la chaleur, transformer c'est en énergie. Et là, c'est la conversion directe des rayons solaires en électricité. Ça a eu beaucoup de succès. C'est vrai. À l'époque, ce serait quand même aussi une des premières expériences. Et nous avons dit non, nous voulons faire un projet avec l'Onersol. Comme ça, l'Onersol va produire la boucle thermique, c'est-à-dire le moteur, et côté électrique. À ce moment-là, nous, Nigelec, nous allons construire, nous occuper de la partie électrique. Et là, on ne s'est pas entendu.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Thank you.